Bonjour et bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info avec une émission aujourd'hui consacrée aux questions de géopolitique. Élections régionales oblige. Cette semaine, Joe Biden était en Europe pour des rendez-vous importants avec l'Union européenne, un G7 au Royaume-Uni, une réunion de l'OTAN à Bruxelles et pour terminer, une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine à Genève. Alors après 4 ans de présidence Trump et de diplomatie chaotique, assiste-t-on à un retour du leadership des États-Unis? Le mot d'ordre de Biden est « America is back » et non plus « America first ». Qu'est-ce que ça change? Une fois que ce sera traduit en bon français, nos invités nous diront ce qu'il faut en tirer comme analyse. Est-ce qu'on est revenu aux anciens équilibres ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouvel ordre mondial? Ces derniers mois, des régimes autoritaires, des dictatures ont poussé leurs avantages. La Chine de Xi Jinping, qui rêve de devenir la première puissance mondiale, la Turquie d'Erdogan, que rien ne semble faire reculer, ni les sanctions, ni les menaces. Question donc de politique étrangère ce dimanche, avec les regards croisés de deux historiens du temps présent. Justin Veil, spécialiste des États-Unis. Il a dirigé pendant 10 ans le centre d'analyse du Quai d'Orsay et il dirige aujourd'hui le Forum de Paris sur la paix. Et Christian Grataloup, le plus grand des géohistoriens, comme on l'appelle et comme le qualifie l'historien Patrick Boucheron. Il est l'auteur de plusieurs livres de référence, dont un atlas historique mondial. Il nous donne à voir l'histoire avec des cartes et c'est passionnant. Questions politiques est en direct avec Christian Grataloup et Justin Weiss pour intervenir. L'application France Inter ou le hashtag Question Paul.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Justin Weiss, Christian Grataloup, bonjour messieurs.
Bonjour Ali.
Et bienvenue, merci de nous permettre de nous cultiver, de nous informer, d'apprendre des choses pendant le silence électoral qui s'impose aujourd'hui en France. Pour vous interroger, Françoise Fressos du journal Le Monde, qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter, pareil, France Inter qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Salut Karine.
Salut tout le monde.
Messieurs, on est à la fin d'une année très agitée sur le front international. Qu'est-ce qui vous a frappé ces derniers mois en géopolitique avant d'entrer dans des dossiers plus précis avec notamment ce voyage européen de Biden? Justin Weiss.
La première chose, c'est le retour des États-Unis, ça c'est certain. Et donc avec le retour des États-Unis, ce qu'on entend par retour des États-Unis, c'est leur adhésion à nouveau à la diplomatie, hein, à laquelle Trump vouait sinon enfin, au moins de la méfiance, voire de l'hostilité, et une certaine forme de multilatéralisme. Mais la deuxième chose qui est frappante, et on l'a vu tout au long de la séquence du voyage de Biden, G7, UE, OTAN et Poutine, c'est malgré tout l'accentuation des failles, et notamment de la fracture États-Unis-Chine. On l'a vu en particulier parce qu'au fond, Biden avait un message aux Européens. Enfin, il y avait un petit message, c'était « America is back, on est avec vous » et il a fait des tas de gestes d'apaisement envers les alliés européens, mais c'était pour leur dire « il faut que vous soyez avec moi contre la Chine ». Et donc on a cette accentuation de la fracture qui évidemment, là pour le coup, dessine le monde nouveau que tu évoquais tout à l'heure.
Christian Grataloup.
Pour moi, l'événement marquant reste la pandémie. C'est vrai que maintenant, on s'y est habitué, peut-être. Donc, ça fait un an et demi, mais c'est pas fini. Et on peut avoir quelques rebonds. Et surtout, c'est quelque chose qui est un témoignage, presque une sorte de laboratoire, de la tension entre ce qu'on pourrait appeler le mondial, l'émergence d'une société mondiale. Parce que le fait qu'en quelques semaines, le monde entier puisse être contaminé, ça, c'est preuve de...
Et que nous ayons tous vécu, nous, terriens, toute l'humanité,
absolument,
en même temps, le même risque et le même danger.
Absolument, la même espèce qui se trouve, effectivement, embarqué dans la même aventure. Et d'autre part, l'international qui s'oppose au mondial dans la mesure où c'est ce qui est l'objet de la géopolitique, la tension entre ces grandes puissances. Et là, effectivement, le retour ou non des États-Unis, l'émergence ou non de la Chine comme première puissance, c'est contradictoire dans une large mesure avec ce traitement, cette question du traitement mondial. Alors, le traitement des vaccins, par exemple, est parfaitement exemplaire de cette tension entre ce qui est étatique ou national et de ce qui est mondial.
Expliquez-nous ça, la question des vaccins. Elle aurait pu être traitée de manière mondiale, mais
Faut pas rêver, non.
Voilà.
Non, ça c'est sûr que non. Mais
on va rentrer dans le détail de ces différents dossiers. Question de François Fressos.
Peut-être pour rester sur la pandémie, parce qu'au fond, dans l'histoire des épidémies, on s'aperçoit que, à la faveur des épidémies, la coopération internationale s'était renforcée. Notamment la naissance de l'OMS, elle a été nourrie par tout ce qui avait été vécu. Aujourd'hui, votre bilan, c'est plutôt, on va vers une accentuation de la coopération, ou est-ce que, au fond, il y a encore beaucoup de choses à faire?
Justin Weiss.
Alors, je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est que, comme le disait Christian, non, il y a eu l'épisode des vaccins en particulier a été l'occasion d'une compétition, d'une concurrence internationale, chacun essayant de vacciner, certains y arrivant plutôt mieux que d'autres, mais utilisant cela comme un outil d'influence. Et donc, ces questions mondiales qu'on devrait traiter tous ensemble sont l'objet de concurrence. Mais d'un autre point de vue, on voit quand même poindre. Et là,
ça vaut pour les vaccins, ça vaut pour d'autres sujets aussi.
Bah oui, c'est-à-dire tous les sujets qui nous menacent en tant qu'espèce. Encore une fois. Le climat, la biodiversité, le numérique, toutes ces questions dont on traite au Forum de Paris sur la paix, pour faire une page de publicité, toutes ces questions-là qui dépassent les frontières, qui ignorent les frontières, qu'on a besoin de régler avec les Chinois, avec les Russes, avec les Turcs, avec les autres, évidemment, elles sont d'autant moins bien traitées qu'on se dispute sur le reste. Et heureusement, il y a des initiatives notamment de la France, de l'Union européenne et d'autres autour de COVAX, autour d'ACTA, c'est-à-dire les instruments qui ont été mis en place pour distribuer les vaccins plus largement. Mais on voit bien que ça reste un effort très largement occidental en réalité.
Karine Bécard.
Alors, je prolonge, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer un peu plus de coopération puisque tous les pays se retrouvaient confrontés à cette même crise et ont dû faire preuve de beaucoup d'humilité dans la gestion de cette crise. Au final, finalement, il s'est rien passé. Enfin, comment je pourrais dire, on pouvait espérer un monde meilleur, on pouvait se dire qu'il y avait une opportunité là à saisir et cette opportunité paraît totalement manquée. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue et pourquoi? Meilleur à reconstruire.
Le monde meilleur, il se fait pas à l'instant. C'est plutôt quelque chose qui se fait lentement, correspondant à des demandes progressives et à des petits pas. C'est à bas bruit.
Et il y a eu des petits pas là ou pas?
Ça, c'est une chose qu'on rate un peu. J'espère que je pourrais dire deux mots de démographie, par exemple.
Et on va en parler, évidemment.
Voilà, c'est absolument essentiel. Là, on est dans des choses qui avancent très lentement, qui sont visqueuses, on pourrait dire, où les bifurcations sont très lentes. Et donc, on en parle peu, finalement, parce que c'est moins événementiel. Donc, je crois que ce qui se passe dans l'Union européenne par rapport à la pandémie est un peu un laboratoire, comme souvent, d'ailleurs, ce qui se passe dans l'Union européenne par rapport à une coopération plus large qui peut se faire. C'est-à-dire que la demande de plus d'Europe est très forte justement sur le plan sanitaire et quelque chose qui évidemment est plus discret sur le plan mondial mais qui montre bien que ça accélère des phénomènes de coopération.
Mais plus d'Europe de la part des États ou plus d'Europe de la part de l'opinion publique?
Non, de la part des opinions publiques, j'entends, oui.
Et ça c'est intéressant d'ailleurs parce que au forum de la paix ou sur la paix, Justin Weiss, vous appeliez à une gouvernance globale, vous appeliez à des prises de décisions ensemble et notamment vous évoquiez l'idée du monde post-Covid, comme si nous permettait ou qu'il était l'occasion, cet événement que nous vivons tous ensemble, de remettre de l'ordre dans la globalisation. Est-ce que ça s'est produit?
Alors oui, moi je pense qu'il y a un mouvement de fond qui fait que le consensus sur lequel on s'était en quelque sorte un peu accordé dans les années celui de la globalisation en réalité a volé en éclats sur les questions d'environnement qui sont maintenant au centre, sur les questions de santé évidemment, sur les questions de numérique en particulier, et donc peu à peu, vous savez, il y a un phénomène de latence rétinienne, c'est-à-dire on l'œil s'habitue pas tout de suite, enfin l'œil s'habitue à un paysage et il ne met pas à jour très rapidement, et le travail qu'on a fait alors là sur le plan plus intellectuel, sur le plan plus politique, c'est quels sont les nouveaux principes d'après ce monde d'après Covid pour pouvoir en effet prendre en compte tout ça et puis pousser un peu plus loin, c'est-à-dire en termes par exemple d'arriver à zéro émission nette. Est-ce que c'est 2050, est-ce que ça doit être avant, sur la question des inégalités qui a marqué toutes les années 2010, sur la question du numérique, on voit bien les énormes questions qui sont posées sur les contenus, sur la cybersécurité, sur la question des manipulations de l'information. On est dans un autre monde que celui d'il y a 3 ans et encore plus de celui des années 2000, et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé.
François Fressos.
Est-ce que vous diriez que ce monde est devenu plus dangereux qu'il y a le monde de la guerre froide par exemple, qui était quand même extrêmement tendu, mais ce que vous décrivez aujourd'hui avec tous ces enjeux à la fois environnementaux, numériques, où on est assez démunis, comment vous le qualifiez?
Eh bien, Justin Weiss. Dans une large mesure, oui, parce que il y a davantage de menaces sur l'homme en tant qu'espèce. C'est pas la planète qui est menacée. La planète, elle sera encore là. Ce qui est menacé, c'est la vie humaine à cause de cette disparition de la biodiversité, du réchauffement climatique, etc. Et la difficulté, si vous voulez, c'est on est dans un bateau. La métaphore, c'est celle du bateau. Et pendant des siècles, les passagers ont pu se disputer entre eux. C'était pas très grave. Le bateau continuait sa route. Mais là, le bateau va vers des récifs qu'il menace le bateau dans son entier, et il faudrait que les passagers arrêtent de se battre pour essayer...
C'est le syndrome du Titanic ?
C'est un peu le syndrome du Titanic. En fait, que ça soit sur... Alors, au XXe siècle, c'était beaucoup le danger nucléaire, hein, qui pouvait faire disparaître la vie sur Terre ou presque. Là, c'est à la fois la biodiversité, le changement climatique et
mais d'autres... sur ces sujets-là, il n'y a pas de leadership, ou si est-ce qu'il y a un État qui vous semble être vraiment à la pointe, à la tête du combat pour protéger la planète?
Eh ben non, c'est tout le problème. Non seulement il n'y a pas d'État, mais en plus les États se disputent.
Christian Grataloup, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde vos cartes et notamment celles qui sont réunies dans l'Atlas historique mondial, et le livre est absolument passionnant, c'est que quand on dit est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de risque qu'hier, votre atlas historique montre que finalement on a toujours vécu dans le danger, que l'histoire mondiale c'est une histoire de conflit, c'est une histoire de guerre, et que la paix, bon, ce sont quelques parenthèses de temps en temps dont il faut profiter. J'exagère.
Vous allez un peu loin. Oui et non. Bien sûr, il y a toujours eu des tensions, des conflits. Bien sûr, ça. On n'a jamais vécu dans un monde tyrannique. Il n'y a aucun problème. Et ça va durer. Mais en même temps, il y a des possibilités de coopération. Parce que la guerre froide, c'est la paix nucléaire, fondamentalement, et des conflits locaux.
Mais des conflits qui peuvent causer des millions de morts,
absolument, tout à fait, oui, qui peuvent localement être aussi virulents que la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais c'est le cas du Vietnam. Mais c'est pas évident que cette situation de relative stabilité globale et de conflits locaux perdure. Parce que dans l'affrontement avec l'Union soviétique, le jeu était malgré tout inégal. Et les soviétiques en ont été conscients, même si on a pu craindre un dérapage jusqu'au dernier moment. Oui. Tandis qu'avec la Chine, effectivement, on est dans une situation un peu différente.
On va
donc
y venir à la question.
Il ne faut jamais oublier que les armements nucléaires existent.
Et qu'ils sont toujours là, et qu'ils sont très largement dispersés maintenant au travers de la planète. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une nouvelle guerre froide? On va rentrer dans les relations entre les États-Unis, Joe Biden et Vladimir Poutine d'un côté, et Xi Jinping de l'autre, mais l'expression, elle fait sens pour vous, Justin Weiss ?
Bah, dans la mesure où cette rivalité sino-américaine structure de très nombreux champs, nous, quand on travaille sur, je sais pas, par exemple, sur la régulation de l'espace, pour que qu'on continue à pouvoir utiliser l'espace extra-atmosphérique pour mettre des satellites et donc servir la vie sur Terre, etc. Quand on regarde le numérique, quand on regarde le climat, etc., on s'aperçoit que ça marque tous les champs, et donc on s'approche, oui, d'une situation d'hostilité forte, voire de guerre froide.
Alors justement, sur cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'elle vous semble justifiée ? Est-ce que l'obsession des États-Unis à l'égard de la Chine est justifiée ?
Alors, d'abord, j'ai tendance à penser que là, on réfléchit à très court terme.
Un peu de profondeur historique.
Non, plutôt d'ailleurs de prospective, parce que vous avez parfaitement raison sur les 10 ans qui viennent. Je crois qu'effectivement, c'est le scénario qu'on va avoir d'une concurrence, d'une montée en puissance technologique de la Chine, des parts de marché, des gains sur différents pays. Ils achètent des pays africains ou de l'Europe de l'Est. Bon, on continuera, on va avoir ce genre de choses. Mais en même temps, votre journal a fait une remarquable double page hier sur le problème démographique de l'Asie. Enfin, c'est un terme que j'emploie avec des guillemets parce que c'est un découpage qui est assez mouvant. Où la Chine, le Japon, la Corée, mais surtout la Chine, évidemment, comme problème... ont une espèce d'implosion démographique, et donc n'ont pas d'avenir démographique. Hein, la Chine a eu une situation conjoncturelle extrêmement favorable dans les années 90-2000, parce qu'elle avait plus beaucoup de jeunes à cause de la politique de l'enfant unique, et pas encore beaucoup de vieux, parce que ça était les gens qui étaient nés à l'époque des troubles énormes. Maintenant, c'est le contraire. Ils vont avoir beaucoup de vieux, très peu de jeunes, et de moins en moins d'actifs. Donc ça peut pas marcher. Si, il y a une solution, c'est celle des États-Unis, malgré tout, malgré les résistances.
La solution, ce serait les États-Unis.
Alors, les États-Unis, de ce fait, du fait que c'est un pays en renouvellement de tradition migratoire, effectivement, dans une certaine mesure, ils ont beaucoup plus de dynamisme, et l'Europe aussi, dans une certaine mesure. Alors que le Japon a vraiment été l'archétype de ce type d'effondrement, puisque dans les années 80, on ne parlait que du Japon. Un courrier international, il y avait toujours le mot japonais dans chaque numéro. Et après, dans les années 90, on a l'impression on oublie que c'est la troisième puissance économique mondiale. Mais malgré tout, c'est un pays qui n'a pas du tout le dynamisme qu'on lui connaissait. Et la Chine suit exactement le même modèle, même s'ils faisaient, ce qu'ils ne sont pas prêts de faire, des réformes démographiques efficaces, ils n'y arriveraient pas avant des décennies. Donc, à moins d'être un pays d'immigration...
Éclairage historique, est-ce qu'ils sont un pays d'immigration, la Chine, ou pas
non,
du tout ?
Non, d'immigration. Et voilà. Absolument, c'est un pays peut s'appuyer sur sa diaspora et les Chinatown dans le monde, mais qui peut pas, au contraire, bénéficier de l'arrivée d'Indonésiens, ou ce qui serait le comble d'Indiens.
Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est un colosse au pied d'argile ? Donc, qu'est-ce que pèse exactement, en fait, cette puissance chinoise aujourd'hui ?
Pour ma part, j'ai une vision un tout petit peu nuancée de ce destin dicté par la démographie, dans la mesure où il reste quand même beaucoup de croissance intensive de la Chine. C'est-à-dire qu'en effet, la population n'augmente plus et n'augmentera plus pendant un certain temps. Cela dit, il y a des marges de rattrapage très très fortes, parce que ça reste un pays qui a des poches de pauvreté gigantesques. Il y a encore donc une capacité de transformation interne, d'innovation, un pouvoir centralisé. Et donc, c'est un pays qui va continuer à grandir. C'est une puissance qui va dépasser, de facto, celle des États-Unis à un moment.
Économiquement,
oui.
D'accord.
Économiquement, alors, il y a le rêve de Xi Jinping, président à vie, qui voudrait voir la Chine devenir la première puissance mondiale. C'est un rêve incertain ou c'est un rêve crédible, Christian Grataloup?
Justement, c'est pour ça que le terme de guerre froide, moi, je trouve que c'est pas le bon modèle. On pense avec le passé, quelque chose qui est différent, ne serait-ce qu'il sera beaucoup plus multilatéral. L'Europe a pas dit son dernier mot. L'Inde va de plus en plus, qui elle, au contraire, la démographie favorable, va de plus en plus exister. Il y a quelques éléments secondaires comme le Brésil. Donc, effectivement, on est dans un monde beaucoup plus divers. C'est sûr que la Chine a tous les atouts, y compris de grosses réserves rurales encore, pour monter en puissance technologique et économique. Mais avec plus une puissance régionale, malgré le rêve des routes de la soie.
Alors, on va en parler justement des routes de la soie, mais même question, Justin Weiss. La Chine, première puissance mondiale, rêve de Xi Jinping.
Oui, je pense que économiquement, elle va y arriver à cause de sa puissance démographique actuelle, pas future, là, pour le coup, parce qu'il y a des réserves. On parle d'1,4 milliard. Les États-Unis sont, 350 millions, il me semble. L'Europe, à peu près 500. Et donc, il y a ces réserves-là. Et puis, encore une fois, il y a la volonté, l'efficacité du Parti communiste chinois. Il faut le dire.
Expliquez-nous, ce que c'est que cette stratégie des routes de la soie. Ça évoque des souvenirs lointains pour certains. L'image de Marco Polo, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, les routes de la soie, et d'où vient l'expression, Christian Grataloup?
Alors, d'abord, c'est pas si ancien que ça, au moins en tant qu'expression, ça date du 19e siècle, et c'est une vision européenne. D'ailleurs, le fait que ça soit le mot soie, alors que si ça avait été historiquement les Chinois qui avaient baptisé une route qui venait de l'Ouest, ils l'auraient peut-être appelé de l'acier, ou enfin de métaux, mais ils n'auraient évidemment pas donné le nom de soie, qui était le produit d'exportation.
D'accord.
Très modeste, d'ailleurs, au total, en quantité. Ce qu'il faut. Donc, inversement, ce qui est vrai, c'est que les échanges entre le monde occidental, disons, autour de la Méditerranée, et puis l'extrême Orient de cet Ouest, qui est le monde chinois pour l'essentiel, et puis tous les éléments intermédiaires, c'est quelque chose qui remonte au paléolithique. Cet axe de l'ancien monde, ça représente à peu près 75% de l'humanité aujourd'hui. Ça représentait 75% de l'humanité il y a 2000 ans. C'est vraiment là que les choses se passent quantitativement, sur le plan démographique, mais aussi par le degré de connexion.
Quand Xi Jinping veut les recréer ou les retracer ou les refaire vivre ces routes de la soie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Alors là, il y a bien effectivement un retour d'une politique impériale, parce que dans la Chine des Tang, puis ultérieurement dans la Chine des Ming, donc l'équivalent de Charlemagne et l'équivalent de François Ier, les routes chinoises ont été contrôlées par l'Empire chinois, le long des déserts, franchissant le Karakorum, jusqu'en Asie centrale. Du point de vue chinois, Samarcande est une vieille ville chinoise. On vient l'oublier, ce genre de choses. C'est-à-dire que l'Asie centrale, c'est pas seulement le Xinjiang, c'est les Ouïghours, c'est tout l'ensemble de l'Asie centrale, hein, qui du point de vue chinois est en perspective chinoise. Donc recréer cela, mais aussi recréer les routes qu'on appelle souvent les routes des épices, c'est-à-dire celles du monde de l'océan Indien, c'est effectivement quelque chose que la Chine tente de recréer économiquement et elle a tous les moyens pour réussir.
Les routes de la soie, Justin Weiss ?
Je pense qu'il faut moins les voir en termes de flux simplement qu'en termes d'influence politique. La Chine est devenue au cours des 20 dernières années le premier partenaire commercial de la plupart des pays de son environnement et bien au-delà, en réalité, jusqu'en Amérique latine et ailleurs. Et l'idée chinoise, la Chine estime qu'elle est venue au monde véritablement quand de sa renaissance, disons, des 40 dernières années, depuis les réformes de Deng Xiaoping, qu'elle est venue au monde dans un monde qui avait été normé par les Occidentaux et que ce monde ne lui convient pas forcément. Et donc, pour l'instant, elle s'en accommode, mais ce qu'elle voudrait, sans verser dans le culturalisme, mais c'est tout de même de recréer un système autour d'elle, puisqu'elle estime qu'elle est centrale, c'est l'empire du milieu, et d'avoir avec tous ces pays des accords de coopération pour projeter ses normes à elle. Et dans les routes de la soie, il y a beaucoup de choses qui concernent, je sais pas, les questions fiscales, les questions d'environnement, les questions de normes techniques,
etc.
Donc
il n'est pas seulement question de commerce, il n'est pas seulement question de
puissance commerciale. Non, c'est bien plus que ça, et aussi des infrastructures et donc des emprunts, des prêts. Hein. On a beaucoup parlé de la dépendance dans laquelle certains prêts chinois mettent certains pays africains ou d'Asie centrale ou d'autres. Et donc c'est une sorte de pôle qui se constitue autour de Pékin, et c'est ça que recouvrent les routes de la soie.
Un complément, Christian Grattalou.
Oui, la volonté de modifier les normes construites par l'Europe, elle va aussi dans le champ le plus intellectuel. Il n'y a pas très longtemps l'annulation d'une exposition à Nantes, au musée de Nantes, sur la construction de la conquête de la Chine par l'Empire mongol, et qui a été complètement bouleversée parce que le pouvoir chinois a dit non, il faut que les choses soient vues différemment, et on ne peut pas prononcer le nom de Genghis Khan, ce qui est historiquement est vraiment tordu. Et c'est quelque chose qui amènera certainement à revoir tout le récit. Hein, tout le récit mondial, et nos catégories, j'ai épinglé Asie ou Europe d'ailleurs tout à l'heure, ou Afrique, nos catégories spatiales, nos catégories temporelles, tout ça, c'est des choses que la Chine veut bouleverser.
Il est midi 25, question politique continue en compagnie de Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix, et du géohistorien Christian Grattalou.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Justin Weiss, vous êtes spécialiste des États-Unis, vous y avez travaillé, vous y avez vécu, et est-ce qu'on peut voir dans la visite de Joe Biden en Europe cette semaine la volonté de renouer les liens avec l'Union européenne, des liens dont on sait qu'ils avaient été très largement abîmés par Donald Trump ?
Oui. Absolument. Oui, et de ce point simplement. De vue-là, c'était ça l'objectif de cette visite. Et de ce point de vue-là, la tournée de Biden était très réussie. Il a fait les gestes envers les Européens qui étaient annoncés. D'abord, un discours qui réaffirmait les alliances, y compris avec Johnson, avec lequel il ne s'entend pas très bien, parce que Johnson était plutôt proche de
oui.
Trump du côté britannique. Mais aussi des gestes concrets sur Airbus, Boeing, la fin de la grande dispute à l'OMC, ou la fin provisoire en tout cas, sur les sanctions qui avaient été prises par les États-Unis contre des entreprises européennes, notamment allemandes, sur le gazoduc Nord Stream 2, et d'autres gestes comme ça qui réaffirment l'alliance proche. Mais évidemment, toute la question, c'est de savoir si l'Europe, qui est remise en quelque sorte au centre pendant quelques jours, reste au centre, ou si le centre, c'est pas devenu l'Indo-Pacifique.
Ça, c'est une autre question. On va rester d'abord sur la question Biden et l'Europe.
On va voir la réaction de l'Union européenne après, des Européens. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il a en tête Biden quand il renoue le lien avec l'Europe ? Est-ce qu'au fond, c'est pour dire, bon, on va refaire du multilatéralisme, ou c'est au contraire ce que vous disiez un peu au début, c'est je vais essayer d'engager l'Europe dans mon combat contre la Chine. Et est-ce qu'il y a un risque à ce moment-là pour l'Union européenne ?
Biden est arrivé avec cette idée très ancrée chez lui que la vraie question pour les États-Unis, c'était la Chine. Et c'est ce qui domine tout son agenda, et c'est la priorité qui ordonne le reste de son agenda, et qui recouvre aussi une autre conviction chez lui, qui est que de plus en plus au cours des dernières années, le monde s'est structuré par l'affrontement entre les démocraties et les autocraties. Donc Chine en première ligne, mais aussi Russie et d'autres. Et donc ce qu'il a fait, et le communiqué du G7 en est plein, le communiqué de l'UE, US-UE en est plein, mais aussi évidemment celui de l'OTAN, c'est d'affirmer la centralité de cette lutte entre les démocraties et les autocraties. Vous savez, il voulait faire ce sommet des démocraties. Bon, on ne sait pas très bien s'il aura lieu, mais d'un certain point de vue, il a eu lieu. Au G7.
Il a eu lieu.
Au fond, c'était un peu ça, puisqu'il y a eu comme invité l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud.
Mais est-ce que c'est pertinent cette approche, ou est-ce que c'est risqué pour le partenaire qui peut être l'Union européenne, justement?
On a bien vu que l'Union européenne à la fois était très heureuse du retour de Biden et ne voulait pas se faire entraîner trop loin dans la croisade.
D'autant qu'on peut se dire que le G7 ne représente plus grand-chose aujourd'hui.
C'est quand même plus de 40% de l'économie mondiale. C'est quand même.
Oui, mais il y a quand même de gros absents.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi oui, mais ce que le G7 perd en puissance ou en poids, il le gagne en cohérence. Parce que si on regarde le communiqué du G7, les 70 paragraphes qui sont très riches, vous savez, l'an dernier, il n'y a pas eu de G7 du tout à cause de Trump, et les années d'avant, c'était indigent. Enfin, il n'y avait pas de coordination entre ces pays-là. Là, avec ce communiqué-là, il y a des choses très précises sur le numérique, sur les vaccins, la santé, sur la question de l'espace extra-atmosphérique, etc. Il y a vraiment un nouvel agenda.
Mais on ne s'interroge pas du tout sur la légitimité de ce G7 qui regroupe les pays que ça regroupe. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent effectivement imposer un agenda à tout le monde? Cette question-là se pose quand même très souvent, la légitimité.
Je vais laisser répondre, mais simplement, le but n'est pas d'imposer à tout le monde, c'est pas un directoire mondial, c'est au moins de se mettre d'accord entre des économies relativement similaires et des gens attachés au libre commerce, à certaines règles de libre marché, au multilatéralisme, etc. Et donc ça, c'est légitime en soi, et on a le droit de se rencontrer avec des chefs d'État avec qui on partage des affinités et décider d'un certain nombre de choses en termes de coordination politique. Ensuite, faut voir si c'est suivi ou pas.
Christian Gadrello.
Oui, c'était de l'OTAN, mais le G7 s'y prête bien aussi. C'était de dire que c'est pas simplement une question d'alliance tactique, militaire. Sinon, d'autres alliances auraient disparu depuis longtemps. C'est aussi une réunion de famille.
C'est-à-dire
que c'est l'Occident qui a un sens et qui, effectivement, culturellement, ce qui fait que, à la limite, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande y seraient elles aussi tout à fait bienvenues.
Mais ce qui irrite, du coup, j'imagine, la Chine.
Voilà. Juste par rapport à la Chine, effectivement, le Japon qu'on a parfois qualifié d'extrême Occident, de ce fait, dans le G7,
la situation est encore. Oui, j'allais vous rétorquer. Voilà.
La question fondamentale est plutôt le lien entre les questions culturelles, sociales, de part et d'autre de l'Atlantique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vécu comme commune, un bien commun culturel, une manière de vivre commune, est-ce qu'elles ne divergent pas? Ça, c'est une question lourde.
Une vraie question, si on va comparer le mode de vie italien et celui du japonais, c'est vrai qu'on est à des univers d'écart.
Je parlais déjà de part et d'autre de l'Atlantique.
Oui, c'est vrai, sans aller jusque-là. Justin Weiss, il y a aussi eu cette rencontre importante à l'OTAN, et on sait que l'OTAN a été malmenée, notamment par le président américain. On va pas pouvoir vraiment aller jusqu'au fond de ce que pense la France de l'OTAN. En revanche, ce qui était assez frappant, c'est de voir Joe Biden réaffirmer l'importance de l'Alliance Atlantique et réaffirmer l'importance de l'article 5. L'article 5 du traité de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Rappelez-nous ce que ça veut dire et les conséquences, les raisons pour lesquelles il a insisté là-dessus.
Alors, l'article 5 est au cœur de cette alliance qu'on a, nous, la France, avec 27 autres pays. Il prévoit qu'en cas d'attaque sur l'un d'entre nous, les autres viennent à son secours.
Oui. Bon.
Mais évidemment.
Ça, c'est le principe de base de l'OTAN.
C'est le principe de base. Et évidemment, alors, ce principe avait été, en fait, en filigrane, mis en cause par Trump au début, puis ensuite, il l'avait réaffirmé d'une façon un peu en queue de poisson, pas très bien. Et donc là, les Européens sont rassurés sur cette alliance, parce qu'évidemment, il y a un partenaire plus important que les autres dans l'alliance, c'est les États-Unis, parce que c'est la puissance militaire qui, au regard de laquelle les autres font figure de nains militaires. Et donc ça, c'était important. Mais et d'ailleurs, la demande constante des États-Unis, c'est que les Européens augmentent leur effort de défense, et la demande constante des Européens, c'est que les États-Unis les laissent prendre leur part de décision. C'est la défense européenne, etc., la souveraineté européenne.
Mais quel besoin justement de remettre en avant l'OTAN? Pourquoi les États-Unis auraient-ils besoin encore aujourd'hui de l'OTAN ?
Alors, tout simplement parce qu'au moment où les fractures augmentent avec la Chine, les États-Unis, alors là on tombe dans ce qu'on appelle la grande stratégie, ont besoin de s'assurer de ce réseau d'alliances, un peu comme dans les années 50, hein, vous savez la pactomanie d'Eisenhower, on appelait ça la pactomanie parce qu'il faisait des alliances avec tout le monde, oui. Mais aussi parce que à terme, si en effet la tension Chine et États-Unis augmente, les États-Unis auront besoin non seulement de l'Europe, mais éventuellement d'autres. Et donc là, on tombe sur le dernier sommet, qui était celui de Genève avec Poutine, parce que en réalité, Biden y est allé un peu à reculons, mais il a fait le job, parce qu'au bout du compte, la question sur le plan militaire, ce sera est-ce que la Russie tombe complètement dans le giron de la Chine, ou alors est-ce qu'elle reste, suffisamment lointaine de la Chine, ou alors est-ce qu'elle peut être récupérée, entre guillemets, par les États-Unis dans cette lutte contre la Chine, un peu comme les États-Unis avaient récupéré la Chine dans les années 70 pour lutter contre l'URSS. Hein, c'était Kissinger.
Mais avant d'aller jusque-là, la France a contesté à l'occasion de cette grande réunion à l'OTAN en disant c'est pas l'objet de l'OTAN que d'aller aider les États-Unis qui peuvent entrer en conflit avec la Chine.
Ah, absolument.
Donc au nom de l'OTAN, effectivement, les Européens peuvent se retrouver embarqués dans ce conflit ou pas ?
C'est ce que certains redoutent, en particulier les Allemands et les Français, et c'est pour ça que la France a exprimé sa réserve sur ce point-là. Mais voyez que entre la France et les États-Unis là-dessus, il y a tout de même sur cette vision-là, il y a tout de même, on voit, peut-être que j'anticipe un petit peu, mais on voit en filigrane se nouer quelque chose, parce que la France a eu tendance à faire des signaux positifs envers la Russie au cours des dernières années, ce qui a été très critiqué par les autres Européens. Mais on voit que à terme, en effet, la question ce sera est-ce que la Russie bascule complètement du côté de la Chine, ou alors est-ce qu'elle peut aider les États-Unis et l'Europe et d'autres.
Toujours sur l'OTAN, Christian Grataloup.
Oui, la question qui est posée, que Justin avait rappelé, entre la demande de défense des Européens et la demande d'armement des États-Unis par rapport à l'Europe, c'est la question de la défense européenne proprement parlée, puisque depuis 54 et l'échec de la COD, il n'y a plus du tout de perspective de construction d'une véritable défense européenne. Ce que les États-Unis n'ont jamais vraiment voulu non plus. On ne pourra pas avoir un second pilier qui serait, lui, parfaitement autonome. Donc, la question de cette défense des Européens, c'est qui est moins d'ailleurs, qui n'est pas vraiment vis-à-vis de la Russie, qui n'est pas une menace tout à fait crédible, sauf marginalement par des guerres à bas bruit, comme elle est capable de le faire en Ukraine et qu'elle pourrait faire dans les pays baltes, éventuellement. Oui. Mais là, on a quelque chose qui est malgré tout l'idée d'une défense européenne et d'une stratégie européenne, dont on voit bien qu'une grande partie des sociétés européennes ne veulent pas.
Et on va en parler dans un instant, parce qu'il y a l'un des membres de l'OTAN qui pose problème, ou en tout cas qui n'est pas si simple à gérer, c'est évidemment le cas turc, on y arrive juste après, mais d'abord Françoise Fraisseuse.
Juste pour revenir sur la relation Russie-États-Unis qui a structuré quand même le monde pendant des années, et vous dites au fond il y a peut-être des perspectives d'évolution à cause de l'arrivée de l'irruption de la Chine dans le paysage mondial. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une atténuation de la tension entre la Russie et les États-Unis pour cette raison-là ?
Il me semble que si Biden, qui déteste Poutine, je crois que c'est pas exagéré de le dire, s'est forcé à faire de la diplomatie, et on fait de la diplomatie avec ses adversaires, pas avec ses amis, c'est précisément dans l'idée exactement comme vous le formulez, c'est-à-dire d'atténuer la tension, au moins d'avoir une relation de travail. Le principal résultat, c'était le retour des ambassadeurs à Moscou et à Washington, et d'être capable de parler d'armement nucléaire. Christian le rappelait tout à l'heure, ce qui est fondamental. Les armes nucléaires demeurent, elles restent très très importantes. De parler de cyberattaques, qui sont maintenant fondamentales dans le paysage mondial. Et on va voir au cours des mois qui viennent si en effet la Russie devient plus prédictible, disons prévisible, et que au fond les cyberattaques se calment, et que on arrive entre États-Unis et Russie a trouvé un modus vivendi, ou si au contraire ça repart de plus belle.
Les cyberattaques ont été d'ailleurs intégrées à ce fameux article 5, puisqu'on intègre maintenant la guerre numérique dans l'ensemble des conflits. Christian Grataloup, il y a la question turque et il y a toujours la présence de missiles nucléaires américains sur le sol turc. Et c'est une question qui est importante, puisqu'on ne sait plus si la Turquie est un allié ou un adversaire. Vu d'Europe et particulièrement de France, cela fait des mois maintenant que le régime d'Erdogan est clairement perçu comme un ennemi avec lequel on peut être amené à, sinon se battre physiquement, au moins avoir des conflits extrêmement sérieux.
Oui, la Grèce ou Chypre sont vraiment tout près. Effectivement, c'est bien possible. Là, on est dans quelque chose qui, plus globalement, là, je prends de nouveau un peu de recul, montre que quand on réfléchit en termes strictement géopolitiques d'alliance, on oublie les dimensions du métissage des sociétés. Et la Turquie est une société profondément métissée, c'est-à-dire qui a été très occidentalisée, alors de force à l'époque de Kemal Atatürk, et donc superficiellement, comme en Iran, mais aussi beaucoup plus profondément, hein, par le type de pénétration économique, par le fait qu'elle ait des migrants en Europe et qu'il y ait des va-et-vient, etc. Donc on a une société qui est très européenne, par bien des côtés, pour partie, mais qui reste très ottomane, comme l'en rêve Erdogan, également d'un autre point de vue, et d'une tension interne qui peut être explosive, hein, à l'intérieur même de la Turquie. Donc elle est européenne et elle ne l'est pas. Simplement, dans notre cartésianisme européen et la géopolitique, c'est quand on trace des lignes et des frontières linéaires, mais ça c'est une invention récente du XVIIIe siècle, eh bien on a là la difficulté à penser effectivement, est-ce que la Turquie est en Europe?
Est-elle une alliée?
Est-ce qu'elle peut rester dans l'OTAN ou pas?
Elle est les deux, une alliée et une ennemie.
Une alliée et une ennemie.
Oui, oui.
Non, mais c'est paradoxal.
Ennemi est peut-être un peu fort, mais en effet, en raison de certains choix, notamment de choix d'armement avec la Russie, en raison des différends dans la Méditerranée orientale, vous savez, sur ces poches de gaz et de ce qu'on a vu des affrontements avec des affrontements, en tout cas des tensions très fortes navales sur place avec l'Union européenne et en particulier avec la France. On peut vraiment se poser la question. Et d'ailleurs, le président de la République avait mis les pieds dans le plat au dernier sommet de l'OTAN, là pour le coup en décembre 2019, avant la pandémie, en demandant l'OTAN n'était pas en état de mort cérébrale à cause de toutes ces contradictions internes, et notamment celles liées à la Turquie.
Mais il y a des missiles américains en Turquie.
Oui, et la Turquie.
C'est ça la réalité la plus importante malgré tout, non ?
Reste protégée, et si quelqu'un attaque la Turquie, nous sommes liés avec elle par cet article 5 et nous irons à sa défense.
François Fressoz.
Un enjeu est monté particulièrement ces dernières années, c'est au fond l'affrontement entre les démocraties et les régimes autoritaires. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les démocraties sont en état de faiblesse sur la défensive ou que finalement peut-être qu'on grossit un peu trop le risque des régimes autoritaires qui ont eux aussi leur fragilité?
Non. Moi je pense qu'elles sont sur la défensive de façon très très claire, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, dans les années 2000 où elles étaient plutôt. Pourquoi? Parce que d'abord les autocraties se sont saisies des outils et en particulier de l'ouverture des sociétés démocratiques. Regardez pour la guerre de l'information, pour la cybersécurité, tous ces outils-là, certains pays, Russie, Chine et d'autres, peuvent utiliser cette ouverture des sociétés alors que leur espace cyber et leur espace de l'information, par exemple, ne sont pas ouverts comme les nôtres. Ça,
c'est un
exemple. Également parce que évidemment, par exemple, le capitalisme d'État, les grandes entreprises nationales chinoises, fortement soutenues c'est une sorte de colbertisme, hein, c'est le pays d'asile le plus français de ce point de vue-là, c'est-à-dire un État très présent et qui se sert de ces grands groupes pour avancer ses intérêts stratégiques. Et donc pour toutes ces raisons, et puis aussi parce que les sociétés démocratiques ont été secouées par la crise de 2008 et ses suites, notamment dans les années 2010, avec les inégalités qui ont entraîné et la réaction contre la globalisation qui ont entraîné une vague de populisme qu'on a vu déferler partout, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi chez nous, en Europe, en France. Et donc, tout ça a mis les démocraties sur la défensive.
Christian Gattalou.
Alors, je voudrais insuffler un peu d'optimisme démocratique.
Merci.
À moyen terme. Plutôt à moyen terme, oui. Parce que, en fait, je pense qu'une nombre de tendances mondiales, donc y compris dans des autocraties, poussent à un développement de sociétés qui sont plus d'individus. Alors bien sûr, on est sensible parce que ça se développe au contraire dans des sociétés où l'individu était l'élément de base, comme notre société, au fait qu'il y a des communautés qui aient tendance à se développer. Mais c'est exactement le phénomène inverse qui se produit un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Chine aussi, où au contraire, les types de pratiques, les types de modes de vie détendent des liens très traditionnels, familiaux, religieux, etc. Tout ce qui
fabrique l'individualisme.
Non, l'individualité. C'est-à-dire vraiment d'être dans des sociétés où la construction des individus se fait en fonction d'un état qui se négocie constamment. C'est-à-dire qu'on négocie sa propre caractéristique. Et aujourd'hui, si les identités sont quelque chose qui pose problème, c'est justement parce que dans bien des éléments où ça allait de soi, bah maintenant non, il y a un certain nombre de personnes qui, au contraire, disent bah non, je ne me résous pas à être ce à quoi je suis assigné à personnalité par ma naissance.
Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que démocratie et autocratie sont confrontés à des mêmes changements, anthropologiques, quasiment. Les démocraties sont secouées. Elles redéfinissent leur contrat social. Elles doivent absorber cette question de l'identité qu'on voit déferler depuis quatre décennies, en réalité, mais qui s'est accentuée récemment. Et en fait, les sociétés autocratiques ont tendance à mettre une chape de plomb sur tout ça. Mais comme disait Jean-Baptiste Durosel, le grand historien des relations internationales, tout empire périra. C'est-à-dire que ces constructions très puissantes seront nécessairement à un moment minées par des phénomènes tels que Christian les décrit.
Alors, ça sera au futur, puisque quand on regarde l'année qui vient de s'écouler, on a vu Xi Jinping, donc président à vie, ne pas se soumettre à quelques pressions que ce soit pour la répression des Ouïghours, par exemple. On a vu Erdogan qui n'a pas cédé lorsque on l'a menacé, même sanctionné dans son offensive en Méditerranée orientale. On a vu scène ahurissante, un président, celui de la Biélorussie, Loukachenko, se transformer en pirate de l'air pour arrêter l'un de ses opposants. On a vu également l'opposition muselée et Alexei Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine, enjolé avec des milliers d'autres qui le soutenaient. Bon, on a l'impression, malgré tout, en regardant les derniers mois, que les autocrates vivent une période plutôt favorable. Fast, j'osais pas employer le mot, mais...
Oui.
Mais vous partagez le constat ?
Oui, alors, pour inverser Durosel, je dirais que tout empire renaîtra, ou renaît. C'est-à-dire que l'on a effectivement des phénomènes cycliques qui se produisent lorsque l'on a des sociétés qui ont une très forte identité et une grosse tradition. Et si on peut s'appuyer sur un noyau de l'ordre du milliard d'habitants comme en Chine, pour la partie Han, j'entends bien, et 1,4 milliard évidemment au-delà, on a toute possibilité d'avoir des reconstructions de ce type-là. Ça n'est pas c'est contradictoire, mais ça n'est pas, c'est simultané avec ce que je disais tout à l'heure d'une manière plus optimiste.
Alors, il nous reste un quart d'heure. J'aimerais qu'on parle de l'Union européenne et l'Union européenne, en l'occurrence, qui vient de passer une année aussi assez paradoxale dans la mesure où on a vu la solidarité se mettre en place avec des fonds de soutien, avec des plans de relance, avec d'abord l'idée de mettre les campagnes de vaccination et les achats de vaccins en commun. Et pourtant, c'est une Union européenne qu'on sent affaiblie, plus divisée qu'il y a quelques mois, quand Ursula von der Leyen annonçait les 750 milliards du plan de relance. Qu'est-ce que vous gardez comme regard sur l'Union au terme de cette année ? C'est plutôt une Union renforcée ou une Union affaiblie, Justin Weiss ?
En fond, c'est le même scénario qui se répète année après année, ou disons tous les 2-3 ans quand il y a une crise, la crise des réfugiés, la crise de l'euro, la crise des Balkans dans les années 90, c'est-à-dire qu'elle a l'air affaiblie et elle l'est parce qu'elle est faible, parce qu'elle a du mal à se mettre d'accord sur les vaccins, sur ceci, sur cela. Mais au final, ce qui résulte de cette crise, c'est davantage d'actions communes sur la relance économique, sur les vaccins, et au fond, le système fonctionne. Et donc, l'équation pour l'Union européenne, c'est de parvenir, pour faire le lien avec la question immédiatement précédente, à faire le lien entre sa propre unité, sa défense vis-à-vis des provocations des autocraties, et puis en même temps de garder cet idéal d'un monde ouvert où on est capable de parler, où l'UE est capable de parler avec la Chine, avec la Russie et avec d'autres, des questions globales dont on parlait au début, justement, des vaccins, du climat, de la biodiversité, du numérique, et de conjuguer, c'est ça l'équation.
Mais est-ce que vous trouvez qu'elle réussit vraiment à exister, qu'elle réussit vraiment à s'imposer, à s'affirmer en fait ?
Non,
c'est ça la question.
Non, elle ne s'impose pas, mais c'est un animal différent, l'Union européenne. C'est pas tout à fait. Non, mais on n'est pas la comparaison avec la Chine, les États-Unis, la Russie est tentante, mais parce que c'est une grande puissance sous certains aspects. Mais ça n'est une grande puissance que sous certains aspects, notamment normatifs, notamment en termes d'exemple, notamment en termes commerciaux, mais en termes géopolitiques, elle ne l'est pas.
Et donc cette souveraineté européenne dont on n'arrête pas de nous parler, elle peut exister un jour ou pas. Enfin, elle existe. existe déjà.
Elle se renforce en fait, de mon point de vue, d'année en année. Je laisserai Christian dire ce qu'il en pense. Mais pour moi, je pense que peu à peu, et notamment avec l'aiguillon français, parce que c'est pas mal la France qui a été derrière ça, je pense qu'elle essaye de renforcer sa cohésion. Regardez par exemple, en termes d'immigration, on avait construit un système Schengen qui était pour circuler librement à l'intérieur de l'Europe, qui n'était pas fait du tout pour répondre à l'extérieur. Et peu à peu, on a construit disons ces institutions qui permettent de répondre aux questions migratoires. Donc peu à peu, elle construit ses outils. C'est un animal différent et un animal jeune.
Et un animal hybride. Christian Grataloup.
Le noyau de base, c'est de savoir s'il existe une société européenne. Il existe incontestablement une société Han, une société russe, une société alors états-unienne, contestablement, une société indienne, c'est un peu plus compliqué, mais une société européenne, c'est pas du tout évident.
Pourquoi?
Et bon, on parle pas de la même langue, par exemple. Ça, c'est un élément absolument central. Donc, on vit pas forcément de ce fait les mêmes choses et au même rythme. Ce qui nous passionne à un moment donné en France, les Polonais s'en fichent et réciproquement. Donc, c'est ce genre de construction.
Sauf quand il s'agit de foot. Hein.
Ah. Oui, enfin, en rivalité nationale, avec une géographie qui est très particulière, qui va très loin.
Personne ne va mourir pour la Commission européenne.
Voilà, c'est-à-dire donc effectivement, on va pas mourir pour sa nation, on va mourir pour sa famille, on va pas mourir pour l'Union européenne.
Oui.
Pas encore. Cela dit, justement, l'idée de mourir, ce serait l'idée que quelque chose qui impose une unité, souvent, c'est une menace externe, une menace forte.
Et
on parlait, j'évoquais l'idée d'une société mondiale cette fois-ci, donc encore plus ambitieuse que l'Europe tout à l'heure. Il n'y a pas de Martiens qui vont débarquer pour créer Independence Day ou la guerre des mondes, qui sous une direction américaine dans ces films hollywoodiens va savoir résister à l'ennemi. Peut-être qu'un jour un astéroïde peut le faire.
Tom Cruise les battra.
Mais néanmoins, et s'il n'y a pas ça, il y a des problèmes énormes à régler. On a vu suite à la pandémie, Justin fait une liste extrêmement longue qui pourrait être allongée. Il y a effectivement des problèmes à régler. Et l'européen, chaque fois qu'on a un problème qui nous est visiblement commun, ça fait avancer l'Union européenne.
Françoise.
Alors dans cette construction imparfaite, le couple franco-allemand a toujours eu un rôle moteur. Est-ce que le départ de Angela Merkel va changer quelque chose? Est-ce que ça va fragiliser ce couple ou est-ce qu'on peut tabler sur, au fond, la poursuite des efforts communs?
Moi, je pense que la relation franco-allemande repose, c'est un mariage de raison, et c'est un très beau mariage de raison. C'est-à-dire qu'on a des tas de Oui, c'est-à-dire qu'on a des tas de raisons de ne pas s'accorder avec les Allemands. Une langue qui nous sépare, des économies qui sont orientées très 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 différemment, et donc des intérêts géoéconomiques.
Et combien de guerres, quand on ouvre l'atlas historique de Christian Grataloup.
Et donc à chaque fois, le partenariat franco-allemand, c'est une guerre contre, enfin c'est une victoire, pardon, contre les données de l'histoire et de la géographie et qui survit aux différents couples franco-allemands de présidents et de chanceliers qui l'ont marqué. Et donc, moi, je pense que ça continuera parce que c'est dans notre intérêt puisqu'on a aussi forgé quelque chose. Je dis un mariage de raison. Il y a aussi de l'affection, bien sûr. Mais si on prend d'un point de vue cynique et strictement géopolitique, à chaque fois, c'est une réaffirmation nécessaire parce que ça permet aussi à l'Europe d'avancer et on a vu des belles réalisations. Donc je ne pense pas que le départ de la chancelière bouleversera ce schéma-là.
Karine.
Alors c'est une question quand même qui se pose. Est-ce que l'Europe aujourd'hui, vous diriez qu'elle est en déclin? L'Occident est en déclin? Ça c'est ce que disent la Chine et la Russie dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Est-ce que l'Europe aujourd'hui vit une période de déclin? Est-ce que c'est un sujet qui vous interroge, en tout cas il interroge beaucoup les Français, ils sont quasiment persuadés de vivre cette période de déclin aujourd'hui.
Christian Grataloup.
Ah oui, c'est une obsession française en particulier, peut-être occidentale en général, il y en a aux États-Unis. Hein. L'idée du cycle des empires, c'est quelque chose qui a travaillé les États-Unis dans les années 80 déjà. Donc il y a eu de belles productions historiques à ce moment-là, sur le modèle romain qui reste l'archétype du déclin. Mais non, moi je dirais non. Non, parce que d'abord un déclin, il faut l'entendre par un déclin absolu ou relatif, c'est-à-dire que on ne cesse de vivre quantitativement de mieux en mieux, même si on s'en rend pas forcément compte. En tout cas, en Europe occidentale et même généralement en Europe. L'idée d'un déclin de gens qui vivent mieux, c'est toujours
c'est paradoxal.
Oui. Par ailleurs, on peut bien sûr avoir un déclin d'influence. Les Pays-Bas du 19e siècle n'ont pas l'influence qu'ils avaient au 17e siècle. Mais ils vivent mieux. Donc c'est effectivement pas tout à fait la même chose. Là où il y a incontestablement déclin, j'en reviens à ce qu'on avait évoqué tout au début, c'est démographique. C'est-à-dire que l'Europe de 1900, c'est 27% de la population mondiale. C'est-à-dire que si les Européens sont... Et encore, je ne compte que ceux qui sont restés en Europe. Parce que qui a peuplé les États-Unis à ce moment-là? Oui. L'Argentine, le Canada, l'Australie, etc. Donc l'Europe, c'est effectivement quelque chose qui a construit le monde, d'abord avec une base démographique. Aujourd'hui, c'est 9% de la population mondiale. Donc nécessairement, son rôle est plus modeste. Là où il y a déclin, c'est qu'il va y avoir certainement déseuropéanisation de tous nos cadres de pensée. J'ai évoqué ce qui m'est cher, le découpage du monde continental, la notion d'Asie, d'Afrique, etc., qui sont entièrement des héritages européens. Mais toutes
pour
nos
vous,
normes,
ça va éclater.
Ben, tout ça bouge.
Ça bouge.
Je vais pas faire des métaphores tectoniques des plaques.
Mais parce qu'on n'arrive pas à l'imposer.
Mais vous avez des, ce qu'on appelle Asie aujourd'hui. Ça n'est évidemment pas le Liban ou la Syrie. C'est pas une crise asiatique, ça. Mais, inversement, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande sont dans un monde qui est de plus en plus asiatique et dans des tas de structures, de fédérations, etc. Ils en font partie. Dans nos cadres généraux de pensée, vous avez évoqué des normes juridiques, des normes techniques. La Chine cherche à imposer les siennes. Mais c'est un phénomène qui effectivement va de plus en plus bouger nos cadres généraux, y compris donc dans le droit. Ça, c'est un élément certainement qui sera un enjeu de demain. Donc, on a l'impression d'un déclin, de ce point de vue-là. Non, c'est une mondialisation. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde européen à un monde mondial.
Et il faut oublier le système métrique, probablement.
Oui, oui non, celui-là, ça va.
Je plaisante. François Fressos, il reste assez peu de temps. Et
pour rester sur la démographie, qui a l'air d'être un élément absolument central, quels sont les pays qui vont compter si on raisonne démographiquement?
L'Inde, ça c'est sûr. Là, on en a peu parlé, justement, on en parle peu, parce qu'elle a des problèmes internes. Ces problèmes de risque d'explosion sont pas nuls, mais enfin, sont pas si forts que cela. Et c'est effectivement une puissance qui est à terme tout à fait montante, parce qu'elle, elle a les atouts démographiques que, dans une certaine mesure, la Chine avait il y a 30 ans, et qu'elle n'a au contraire qu'elle a totalement épuisé. Et là, non seulement l'Inde ne les épuise pas, mais elle va arriver au moment où elle aura beaucoup d'actifs, moins de jeunes et pas de vieux, ce qui est exactement la situation.
Et dans la liste des États autoritaires, on a oublié aussi que l'Inde devient de plus en plus et que
là, un État ambigu, celle qui se prétendait la plus grande démocratie du monde n'a jamais tout à fait été, elle n'est pas non plus tout à fait autoritaire, parce qu'effectivement, l'Inde bouge.
L'Inde, et on a évidemment aussi à parler de l'Afrique,
absolument.
Qui...
Le Nigeria.
Alors, le Nigeria qui va devenir l'un des pays les plus peuplés du monde dans un horizon de combien, quelques décennies ?
Quelques décennies, oui.
Quelques décennies.
On ne sait pas combien il y a de Nigériens aujourd'hui.
On ne sait pas, mais ils seront en tout cas parmi l'un des plus grands pays du monde dans quelques décennies. Mais l'ensemble du continent africain qui est vivant, qui bouge, qui évolue, est-ce qu'il se structure aussi en termes géopolitiques comme une, non pas comme une puissance, mais comme quelque chose d'uni, qui pourrait parler d'une seule voix? Au fond, est-ce que Afrique, ça doit pas être écrit avec un S? Tant les pays et les situations sont différentes.
C'est le cas actuellement, certainement. L'UA, l'Union africaine, qui rassemble tous les pays du continent, a beaucoup progressé. Elle a fait, là on le voit sur les vaccins, c'est elle qui est en première ligne pour essayer d'avancer et de créer un mécanisme commun. Et donc, alors il y a aussi la discussion d'une ère de libre-échange panafricaine qui couvrirait toute l'Afrique, et tout ça va dans ce sens-là. Cela dit, on en reste encore assez loin. Il y a qu'à regarder les flux de communication intra-africains qui restent très insuffisamment développés. La gestion de on en revient là, des grandes questions communes, environnement, santé, etc., qui restent très morcelées, insuffisantes.
Mais le problème de base, je le rappelle, c'est qu'Afrique est un découpage totalement européen qui a inventé le découpage de la mer Rouge, qui n'est pas une limite, et qui n'était pas d'ailleurs historiquement avant, c'est le Nil, la séparation Afrique-Asie. Il y a d'abord une coupure historique, elle, beaucoup plus longue, du temps très long, c'est le Sahara. La Méditerranée n'a une coupure théorique que depuis très peu de temps, hein, quelques siècles, mais il suffit de se souvenir de l'Empire romain pour voir que c'était un monde commun. Oui. Alors qu'inversement, le Sahara est une discontinuité qui a jamais été totale, qui a toujours été plus ou moins franchie, qui s'est d'ailleurs aggravée par la désertification. Mais ça reste aujourd'hui quelque chose d'important. Donc Afrique, j'ai enseigné assez longtemps à Dakar. Afrique, oui, c'est un sens à Dakar, hein, ou ailleurs, d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, puisqu'on dit plus noir. Donc là, c'est vraiment être africain, c'est fort. Mais inversement, quand je suis avec des collègues marocains ou tunisiens, quand ils disent en Afrique, c'est pas eux, hein, c'est au sud du Sahara, ou ça peut l'être, à l'occasion d'une coupe de foot, il y a des moments où on est africain, on l'est pas, et la diplomatie marocaine est très forte, hein, pour ça. Donc, vous avez là, cet élément. Alors, ensuite, au sud du Sahara, Justin faisait justement remarquer que les échanges inter-africains étaient très modestes aujourd'hui, mais historiquement, ils existaient pas. C'est-à-dire qu'au 15e siècle, il y avait un monde d'Afrique occidentale, il y avait un monde du royaume du Congo, il y avait un monde dans les États qui étaient le long de l'océan Indien et qui commerçaient avec le monde indien, iranien, arabe.
Et puis il y avait les royaumes d'Agomé, il y avait...
Effectivement, mais il n'y avait pas de... Cette création de cette unité, c'est une vision effectivement vue de l'extérieur européenne, mais qui aujourd'hui existe. Parce qu'être africain, c'est fort. Donc c'est créer quelque chose qui peut avoir beaucoup d'avenir.
Je vais vous poser une question extrêmement difficile. Il nous reste une minute d'émission. Pour vous, quel est l'enjeu géopolitique majeur ?
Eh bien, c'est d'éviter que les tensions géopolitiques ne tuent la gestion des questions globales qui, en réalité, nous menacent plus que ces tensions géopolitiques, c'est-à-dire le Covid, le réchauffement climatique, le numérique, etc. Il faut qu'on puisse s'entendre entre nous, y compris la Russie et la Chine, pour pouvoir y répondre et en évitant que ces tensions ne tuent ces efforts.
Magnifique construction circulaire. Christian Grattalo.
Je ne peux faire que la même réponse, c'est-à-dire que les égoïsmes locaux, les souverainismes divers ne permettent au contraire, n'interdisent pas la possibilité de sauver la maison commune dans laquelle des individus pourraient construire une société mondiale.
La maison commune, le vaisseau spatial Terre. Notre Terre.
L'unique Terre.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités ce dimanche. Justin Weiss, Christian Grattalo, je rappelle les atlas et les atlas historiques, et notamment l'atlas historique mondial qui est passionnant chez les arènes. Merci Françoise, merci Karine. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Allez voter !